Merci. Alors, moi, je risque de vous décevoir parce que je ne suis pas un spécialiste du transhumanisme, je ne suis pas un spécialiste de science-fiction. Voilà, moi, je suis un journaliste et ce bouquin, en fait, je suis obligé de partir de relater tout le fil de mon enquête parce qu'en fait, ce bouquin part de la maladie d'Alzheimer, d'une chambre d'hôpital où se trouvait ma mère. Et c'est en suivant une enquête, parce que je me suis posé des questions sur la maladie d'Alzheimer, qu'en poussant des portes les unes après les autres, je vous convie à me suivre dans cette enquête. Alors, je suis obligé de parler un peu du début, on va essayer de ne pas trop s'apesantir sur la maladie d'Alzheimer. Dans d'autres conférences, on me fait venir pour parler de la maladie d'Alzheimer, et je n'ai pas le temps du tout de parler du transhumanisme. Là, c'est en l'occurrence, c'est l'inverse. Donc, maladie d'Alzheimer, on va aborder la médecine personnalisée, tout le délire qu'il y a aujourd'hui sur le séquençage génomique, tout ce qui tourne autour des gènes, et de fil en aiguille avec les NBIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies, nanotechnologie, biotechnologie, tout ce qui est informatique et tout ce qui est... Enfin, la science aujourd'hui va très 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 vite. L'histoire de la tête, où on peut greffer une tête, c'est... Oui, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des gens qui travaillent sur télécharger la conscience aussi sur un ordinateur. Donc tout est possible et tout va très vite. Et aujourd'hui, il y a effectivement un rapport qui vient d'être remis sur l'intelligence artificielle. On va y venir. Donc moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Je ne suis pas un conférencier professionnel. Je suis comme vous. Moi, j'ai juste un outil j'ai l'outil du journalisme qui m'a permis de poser plein de questions sur le monde. J'étais venu il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour, avec un livre sur la bio. Ça, à l'époque, j'ai travaillé avec d'autres auteurs sur un regard critique sur ce qui était en train de devenir l'agriculture biologique. Donc voilà, ça s'appelle la bio entre business et projet de société. Donc voilà, moi je peux aborder, puis demain je testerai autre chose. J'ai jamais eu l'intention de faire un livre sur le transhumanisme. Pour moi, c'était, il y a encore 3-4 ans, c'était presque un délire complotiste. Mais en fait, en partant de la maladie d'Alzheimer, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on peut tirer des fils comme ça et aboutir à la Silicon Valley, et que la Silicon Valley est en train un peu de prendre le pouvoir sur nos existences. Voilà, alors ce que je veux vous proposer aussi, pour que ça soit un peu vivant, c'est que vous interveniez quand vous voulez. Je vais essayer de faire thème par thème. Et si vous voulez poser des questions, si vous voulez réagir, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des conflits, enfin voilà, il faut que vous participiez aussi parce que je ne suis pas là tout seul pour parler et je peux me tromper. Et puis le but d'un bouquin comme ça, d'un travail comme ça, c'est donner de l'information pour que vous réagissiez, que vous en fassiez quelque chose. Ça vous appartient à vous. Voilà. Alors par rapport à la maladie d'Alzheimer, donc on va en parler. Donc moi, je suis parti de la chambre de ma mère qui avait été diagnostiquée Alzheimer, qui était dans un EHPAD. Déjà, le diagnostic avait duré un quart d'heure. C'était 3 questions. Le nom du président de la République, quel étage elle était, en quelle année on était. Et elle s'est retrouvée diagnostiquée Alzheimer dans un EHPAD. Alors, je voudrais qu'on parle aussi. Alors, on n'est pas dans le transhumanisme, mais on n'en est pas loin. Il y a eu des grèves. Et pour moi, c'est très important aussi. Il y a eu des grèves dans les EHPAD et qui continuent aujourd'hui. Il y a un mouvement social très puissant dans les EHPAD et on va voir qu'on n'est pas loin du transhumanisme. C'est un exemple. Il y a grève des aides-soignantes et des infirmières et on va voir que l'EHPAD, moi je suis parti de là, des conditions d'accueil de nos vieux, entre guillemets, dans notre société qui est complètement indécente et complètement déshumanisée. Donc les infirmières, les aides-soignantes sont mis en grève pour réclamer plus de personnel, de meilleures conditions de travail, des moyens pour permettre une meilleure prise en charge de nos aînés. Quelle a été la réponse du gouvernement? Leur ont donné 50 millions en disant on ne peut pas donner plus. Et en même temps, des centaines d'EHPAD achetaient un robot qui s'appelle Paro. C'est une espèce de grosse peluche en forme de bébé phoque. Un robot connecté, robotisé, avec la mémoire qui garde en mémoire donc le nom, l'histoire de la personne, le dossier médical de la personne, et qui peut s'entretenir avec la personne. Voilà. Donc c'est une start-up japonaise qui a créé ça. Donc ça enrichit même pas les start-up françaises, mais ça rentre dans la logique du gouvernement actuel. Aujourd'hui, il se lance à fond dans l'intelligence artificielle, il se lance à fond dans la télémédecine, dans la cyber économie. C'est un concept, tout ça c'est pas aléatoire, il y a derrière un projet de société qui se met petit à petit en place. Quand des femmes puisque c'est surtout des femmes hein, qui travaillent dans, qui s'occupent des anciens, demandent de meilleures conditions de travail et plus d'humanité, on leur répond par un robot par eau, voilà, qui coûte 7000 euros. Chaque grosse peluche coûte 7000 euros. Il faut fermer le personnel pour le mettre en marche et le gérer. Ça coûte aussi de l'argent. Et voilà la réponse aujourd'hui. Donc, c'est pour vous montrer que je vais vous parler des EHPAD, mais on n'est pas très loin du projet de société qui se met en place. Alors moi, bon, j'ai eu une réflexion critique, je vais essayer d'aller vite, par rapport à la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup de choses qui me choquaient. Déjà, l'omniprésence des laboratoires pharmaceutiques qui étaient là, et qui vendaient, alors moi déjà tous les bouquins qu'on m'a donnés pour me familiariser avec la maladie d'Alzheimer, c'était des laboratoires pharmaceutiques qui les avaient écrits, c'est les mêmes labos qui vendaient des médicaments. Après bon, il y a plein de choses qui m'ont posé des questions, en discutant donc avec du personnel, une cadre de santé qui a démissionné après, qui était contre le tout médicament. Il faut savoir que le seul traitement aujourd'hui qu'on propose, ce sont des médicaments que dans les EHPAD ou les maisons de santé, les personnes âgées, les vieux, entre guillemets, peuvent recevoir jusqu'à 10, 15, 20 médicaments. Ça fait des cocktails, on ne sait pas ce que ça fait. Ça a des effets secondaires terribles. Et par exemple, dans le cas de ma mère, elle a été massacrée par un médicament qui s'appelle l'équanil, qui est aujourd'hui interdit. Et quand elle s'est retrouvée grave à terre, parce qu'ils lui ont donné des surdoses, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, ça a été interrompu, elle s'est retrouvée grave à terre, et le médecin qui était en charge de l'hôpital m'a dit « mais c'est le déroulement normal de la maladie d'Alzheimer ». Donc, alors que c'est la plupart du temps lié vraiment à la surmédicamentisation des personnes âgées. Alors de fil en aiguille, je me suis posé des questions sur la maladie d'Alzheimer, j'ai commencé à faire mon enquête, j'ai rencontré tout un tas de chercheurs et des gens très critiques. Donc la maladie d'Alzheimer, il faut savoir qu'elle est apparue. Alors on parle de la vieillesse, elle a permis de médicaliser la vieillesse et on va voir que à la fin du débat, pas à la fin, dans peu de temps, que la vieillesse chez les transhumanistes ou chez tous les chercheurs un peu inspirés de par cette idéologie, la vieillesse devient une maladie. Maintenant, c'est une maladie qu'il faut guérir. C'est un problème technique qu'il faut résoudre. Bon, à cette époque-là, la vieillesse permettait de médicaliser, la maladie d'Alzheimer permettait de médicaliser la vieillesse et c'était un business phénoménal. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, alors moi je parle d'un bouquin qui s'appelle un bouquin écrit par Simone de Beauvoir, qu'elle a écrit en 1970, qui s'appelle La vieillesse. C'est un bouquin de 400 pages, et en 1970, dans ce bouquin, elle ne cite qu'une seule fois la maladie d'Alzheimer. 5 ans après, la maladie d'Alzheimer est devenue une épidémie qui a envahi toute la planète. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, c'est parti des États-Unis. On s'est rendu compte que tous les pays développés, entre guillemets, dans lesquels on vit, connaissent une augmentation de l'espérance de vie. Donc, de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de pathologies liées à ces personnes âgées. Donc, pour les laboratoires, un marché phénoménal qui s'ouvrait à eux. Il fallait trouver un vaccin, des médicaments, pour pouvoir les vendre aux personnes âgées. Il y avait un réel besoin aussi, parce que jusqu'alors, ce qu'on appelait la démence sénile, il n'y avait aucune approche, c'était les hospices, les hôpitaux psychiatriques, et c'était des maltraitances avec des contentions, des douches froides, donc il fallait réagir. Mais ce qui a fait ressortir les travaux d'Alois Alzheimer, c'est essentiellement aux États-Unis la perspective d'un marché immense qui s'ouvrait aux laboratoires pharmaceutiques. Donc tout ce qu'on appelait jusqu'alors les démences séniles, du jour au lendemain, on est allé rechercher, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, les travaux d'Alois Alzheimer, qu'il avait mené, ça je l'explique dans le bouquin, qu'il avait mené en 1906 sur 3 cas, et à l'époque, on ne parlait pas du tout de maladie d'Alzheimer. Donc, il avait identifié des plaques séniles, ses travaux sont après tombés dans l'oubli, et en 1980, des chercheurs américains ont ressorti ces travaux et ont généralisé à toutes les personnes présentant des signes de problèmes cognitifs d'un certain âge, on les diagnostiquait systématiquement Alzheimer. Donc voilà, il y avait un marché énorme qui s'ouvrait. D'ailleurs, je cite souvent un type qui s'appelle Robert Butler, c'était le chef de l'Institut du vieillissement aux États-Unis. C'est un énorme institut étatique qui a participé à cette campagne. Et lui disait, il faut faire la maladie d'Alzheimer un nom connu de tous, une cause nationale, c'est la politique sanitaire de l'angoisse. Donc on voit qu'aujourd'hui, la vision qu'on a de la maladie d'Alzheimer est toujours liée à cette angoisse. C'est une espèce de rouleau compresseur qui se met en route chaque année, ou le 21 septembre, par exemple, c'est la journée internationale de la maladie d'Alzheimer. Et c'est toujours cette politique de l'angoisse. On parle d'une épidémie, on parle d'une espèce de terreur qui se met en place. Et voilà. Donc avec tout un tas de relais médiatiques. Donc, pour aller vite, cette politique donc, s'est généralisée très vite en Europe. Et la recherche des médicaments et de vaccins a été un échec. Il y a seulement 4 médicaments qui ont été trouvés. Sur, par exemple, de 2002 à 2012, il y a eu 1150 essais pharmaceutiques qui ont été menés, qui ont été à 99,8% des échecs. Ce qui reste, ce sont 4 médicaments qui ont été, qu'on appelle les anticholinestérasiques, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici ce soir, qui ont été généralisés à toutes les personnes diagnostiquées Alzheimer. Comme je vous disais, ça allait très vite. Pour diagnostiquer une personne Alzheimer, à l'époque, c'était un quart d'heure, une demi-heure, quelques questions, un test mémotechnique simplifié. Et dès que la personne était diagnostiquée, on lui balançait des médicaments. Ces médicaments, tout de suite, ils sont apparus au début des années 2000. Dès qu'ils sont apparus en France, pour parler de la France, elle a revu prescrire une association de médecins qui s'est élevée contre ces médicaments en disant qu'ils étaient inefficaces, voire dangereux. Ils étaient efficaces pour 5% de la population des patients et efficaces sur 3 à 6 mois. Alors que là, ils étaient généralisés à toutes les personnes diagnostiquées jusqu'à la fin de leur vie. Il faut savoir que ça coûte encore 100 € la boîte, il faut une boîte par mois. Donc en bithérapie, ça fait 200 € par mois. Multiplié par les centaines de milliers de personnes, une association de médecins qui s'appelle Formindep avec chiffré le coût pour la sécurité sociale à peu près 1 milliard d'euros. Donc on préfère, à cette époque-là, on préférait investir, et encore aujourd'hui, donner de l'argent aux laboratoires pharmaceutiques plutôt qu'investir dans l'humain et apporter une présence humaine aux gens qui sont dans les EHPAD. Voilà, donc il y a une association qui a mené un combat contre ces médicaments. Et en 2016, ces médicaments, bon, ils ont montré que tous les experts avaient des liens avec les laboratoires pharmaceutiques. Et en 2016, le service médical rendu de ces médicaments a été, par la Haute Autorité de la Santé, a été décrété comme nul. Donc il ne devait plus être remboursé. Sauf que la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, parce qu'il y a eu une levée notamment de l'association France Alzheimer, qui disait qu'il était impossible de diagnostiquer des médicaments sans prescrire, diagnostiquer la maladie sans prescrire des médicaments, aujourd'hui continue à être remboursé. Donc voilà. Alors, je suis allé très vite. Tout ça s'est raconté au début. Alors, je veux dire que le bouquin, c'est pas un essai universitaire. Il est raconté à la première personne. C'est tout le déroulement de mon enquête. Alors, échec total par rapport à la maladie d'Alzheimer. Pas de médicaments, puisque ces médicaments ont quand même aujourd'hui été retirés. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui les causes de cette maladie. Voilà. Ça, c'est... Je suis allé très vite. C'est la première porte que j'ai poussée en faisant cette enquête. La deuxième porte, qui nous amène petit à petit progressivement vers le transhumanisme, c'est que les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent pas rester sur un échec. C'est que jusqu'à présent, jusqu'alors, la maladie d'Alzheimer, c'était des personnes âgées de 70, 80, 90 ans qui étaient au stade sévère d'une démence. On n'a pas trouvé de médicaments ni de vaccins à leur vendre. Donc les laboratoires pharmaceutiques, et ça, ça participe d'un mouvement quand même général, ça ne touche pas que la maladie d'Alzheimer, ils s'intéressent désormais. Avant, on soignait. Maintenant, on ne soigne plus. Il n'est plus question de soigner. Et vous allez voir que cette médecine généralisée, cette médecine personnalisée est en train de se mettre en place. Là, il n'y a pas de débat. Ça se met incognito en place et ça va se généraliser en finir avec la médecine qu'on en connaît. Donc il ne s'agit plus de soigner, il s'agit de prévenir. Donc on va décréter que les personnes, tout le monde, toutes les personnes saines, portent en elles un certain nombre de maladies qu'elles risquent de développer dans 10, 15, 20 ans. Et qui pour cela, la nouvelle approche, cette nouvelle médecine personnalisée, consiste à cibler des populations et à rechercher parmi ces populations les personnes qui sont porteurs de ces maladies. Notamment dans la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, il n'est plus question donc de personnes de 80 ans. Il est question, voilà, ça c'est un titre parmi tant d'autres. Si vous faites attention maintenant, vous allez voir qu'il y a des campagnes comme ça, il y en a en pagaille, notamment le 21 septembre pour la maladie d'Alzheimer. C'est à partir de 50 ans. Donc maintenant, le public ciblé, c'est les gens de 50 ans. C'est-à-dire qu'ils sont en parfaite santé, qui ont à peu près toute leur tête, comme moi. Enfin, même si on a des trous de mémoire, mais ça c'est normal, ça fait partie de l'humain. Mais ce sont eux qui sont ciblés. Et donc en France, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été diagnostiquées Alzheimer précocement. Alors, toujours pour aller très vite, il y a un médecin, un éminent alzheimerologue qui s'appelle Bruno Dubois, qui est français, qui a travaillé avec un collège de chercheurs américains sur une nouvelle définition de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il faut quand même un cadre scientifique pour tout cela. Donc avant, c'était juste la démence sénile. Maintenant, il y a deux autres stades. Il y a la démence modérée, ça nous intéresse moins, et surtout, il y a le stade qui s'appelle prodromal, asymptomatique, où la maladie ne s'est pas déclenchée. Donc les personnes sont en parfaite santé, mais ont toutes les chances de développer dans 10 ou 15 ans la maladie. Alors comment on fait le diagnostic ? Il y a tout un tas d'outils. On fait des recherches de ce qu'on appelle des biomarqueurs dans le corps. Ça peut être des protéines, notamment pour la maladie d'Alzheimer, c'est les peptides bêta-amyloïdes, qu'on va rechercher soit par des imageries de plus en plus sophistiquées du cerveau, soit par des ponctions lombaires et rechercher dans les liquides céphalo-rachidiens ces traces de peptides, soit, aujourd'hui ça commence à se généraliser, la recherche d'un gène. En l'occurrence, il y a un gène pour le moment, APOE4, mais dans peu de temps, il y en aura beaucoup plus. Parce qu'on a déjà, il y a un professeur qui s'appelle Philippe Amouyel, à la tête d'un énorme consortium européen, qui a identifié 23 gènes de la maladie d'Alzheimer. 23 gènes de susceptibilité. Donc cette médecine personnalisée, ces diagnostics, sont basés là-dessus, sur on essaie de cibler donc des personnes, et de leur... voilà. Donc on va vous dire, on va vous faire des IRM de plus en plus sophistiqués, on va vous faire une ponction lombaire, et peut-être une recherche de gènes. Après, on va vous convier, vous allez avoir un rendez-vous avec le neurologue, vous allez venir soit avec votre compagnon, soit avec votre compagne, vous allez vous asseoir en face du neurologue, qui va vous dire, monsieur, madame, bon... voilà, pour le moment vous allez bien, mais dans 10 ou 15 ans vous avez toutes les chances de développer la maladie d'Alzheimer. Alors là, en sortant, bon, au revoir, on va reprendre rendez-vous pour voir ce qu'on peut faire. Si vous n'avez pas la maladie, c'est sûr qu'en sortant, vous allez commencer à la déclencher. Et puis même si vous ne la déclenchez pas, votre environnement, même les gens les mieux intentionnés autour de vous vont vous aider à la déclencher. Voilà, donc comme ça on a diagnostiqué des dizaines de milliers de personnes. Et évidemment, pourquoi on a diagnostiqué ces personnes ? C'est pour leur vendre des traitements. Parce qu'avec avec la médecine personnalisée, il est question de vendre pendant ces 10, 15, 20 ans où vous êtes dans la salle d'attente. Alors peut-être que ça ne se déclenchera jamais. Alors les traitements, vous allez les prendre jusqu'à la fin de votre vie. Donc on va vous proposer des traitements pour prévenir la maladie, pour éviter qu'elle se déclenche. Sauf qu'il n'y en a pas. Donc ces milliers, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ces dizaines de milliers de personnes diagnostiquées, on les envoie vers les essais des laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils servent de cobaye, pour rechercher ces fameux traitements. Donc toujours avec la participation des chercheurs, comme le professeur Bruno Dubois dont j'ai parlé, là, qui est un neurologue à la tête de tout un tas d'instituts, lui participe à ces recherches, à ces essais pharmaceutiques. Donc pour le moment, c'est encore un échec, on n'a pas trouvé des traitements, mais on continue à diagnostiquer à tour de bras des gens précocement Alzheimer. Déjà, on peut faire, si vous avez déjà des questions, on peut...
Le diagnostic, pas qu'Alzheimer, il y a plein de maladies qui commencent à être...
Ben par rapport...
aux gens, sur il les soigne avant qu'ils soient malades.
Voilà, la médecine personnalisée. Alors, il y a le cas qui a été énormément médiatisé, le cas de Angelina Jolie, qui avait fait une recherche, un séquençage de son génome, une recherche de gènes. Et on a détecté dans ces gènes des gènes susceptibilité de... du cancer du sein, BRCA. Et donc, elle a décidé, c'était son choix, puisque sa mère avait eu un cancer du sein, elle a décidé de subir une ablation des deux seins et des deux ovaires. Voilà. Alors, ça, c'est un peu une des conséquences, c'est un peu une illustration de ce que pourrait devenir, ce que peut devenir, ou ce qui est en train de devenir, cette médecine généralisée. Ce qui s'est passé avec le cas d'Angelina Jolie, c'est que ça a été hyper médiatisé, que le laboratoire américain qui a le brevet de cette recherche de gènes, parce que chaque fois maintenant il y a des tests diagnostiques. Avant, les labos n'avaient que les traitements, maintenant ils ont les tests diagnostiques qui coûtent aussi cher que les traitements. Ça coûte, dans le cas d'Angelina Jolie, la recherche de ces gènes coûte 3000 euros. Et ça a été des dizaines de milliers de femmes qui se sont fait faire cette recherche de gènes. Donc ça, et les cours de ce laboratoire américain ont grimpé en conséquence. Voilà. Et donc ça se généralise, la recherche pour les cancers, pour le diabète, pour la maladie d'Alzheimer, même la maladie de Parkinson, on va rechercher des gènes, alors que la maladie de Parkinson, il y a tout un tas de preuves comme quoi elle serait liée aux pesticides, mais on a quand même identifié des gènes de la maladie de Parkinson. Donc voilà. Alors je vais de plus en plus vite. Non, puisque c'est surtout le transhumanisme qui vous intéresse, si j'ai bien compris.
Il y a les assurances aussi.
Oui.
J'ai entendu que la maladie de Parkinson, on ne pouvait l'avoir qu'avec une autopsie.
Qu'avec une
autopsie. Il y avait beaucoup de gars qui n'en étaient pas, en fait.
C'est possible. C'est possible, comme la maladie d'Alzheimer à une époque aussi. Il fallait autopsier le cerveau. La maladie de Parkinson, je ne sais pas, mais c'est possible. En tout cas, aujourd'hui, la maladie de Parkinson, on a identifié des gènes de susceptibilité et on la traite justement, là on est en plein dans le sujet, avec les implants au sein du cerveau pour supprimer les tremblements. Mais par ailleurs, elle a été reconnue maladie professionnelle chez les agriculteurs liée à l'utilisation des pesticides. Donc là on est un peu dans le flou le plus total par rapport à la maladie de Parkinson. Voilà. La maladie d'Alzheimer aussi, longtemps on a autopsié des personnes pour chercher les plaques séniles, sauf qu'il y a des études qui prouvent que ces plaques séniles ne sont pas forcément liées à la maladie d'Alzheimer. Donc c'est le flou aussi le plus total à ce sujet.
Derrière cette question, on sent venir Bayer qui vend ses produits phytosanitaires et Bayer, la boîte pharmaceutique, qui met au point les gels.
Bayer qui a racheté Monsanto. Voilà. Ouais. Je ne sais plus combien de milliards de. Voilà. Donc, en fait, le développement de cette médecine personnalisée est lié à. Comment dire, une espèce de à une révolution au niveau médical, au niveau scientifique. Et on va voir qu'il y en a en pagaille des révolutions au niveau scientifique qui se passent en ce moment. Bon, là, en l'occurrence, il s'agit du séquençage du génome humain. Le premier séquençage du génome humain a eu lieu en 2003. Il a coûté 3 ou 4 milliards de dollars. Il a pris 12 ans, il a mobilisé 20 000 personnes et on a abouti au séquençage d'une personne. Aujourd'hui, il y a déjà, en ce moment, je ne sais plus, mais il y a des millions, des dizaines de millions de personnes qui ont leur génome séquencé. Le séquençage d'un génome entier, aujourd'hui, prend quelques jours, coûte quelques centaines de dollars, et dans très peu de temps, ça prendra une heure et ça coûtera 100 dollars. Et dans encore plus de temps, ça coûtera peut-être 10 dollars et ça prendra que quelques minutes. Il y a même des start-up qui sont en train de travailler sur des applications avec votre portable, votre iPhone, vous pourrez vous faire un séquençage génomique en le reliant directement à des réseaux médicaux. Donc voilà, donc on a assisté à une démocratisation entre guillemets du séquençage génomique qui est aujourd'hui généralisé au niveau médical. Oui, alors le génome, il faut parler de ce que c'est d'abord du génome. Le génome, c'est l'ensemble des gènes qui sont dans l'ADN des chromosomes humains. Il y a, je crois, 30 000 ou 40 000 gènes identifiés. Et il y a, dans le génome, il y a toute une partie des génomes qui est encore aujourd'hui non identifiée. Donc c'est la cartographie générale de l'ensemble de nos gènes. Ça peut être aussi... quand on fait un séquençage génomique, ça permet de rechercher des maladies, ça permet aussi de faire des recherches au niveau généalogique. On va voir très vite en quoi ça consiste. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hôpitaux, d'universités qui proposent des séquençages génomiques. En France, le séquençage génomique, tout ce qui touche les gènes est parfaitement encadré par la loi. C'est uniquement dans trois cas. C'est recherche criminelle, sur l'ordre d'un juge, ces recherches de paternité sous l'ordre d'un juge des affaires familiales, ou alors c'est une recherche de gènes pour des maladies, par exemple orphelines, et c'est un conseil de médecin qui demande le séquençage génomique. En dehors de ces trois cas, c'est totalement interdit. Sauf que, en sortant d'ici, vous allez sur Internet, et vous allez taper « séquençage génomique », et vous allez avoir tout un tas de sites qui vont apparaître, où on va vous proposer, pour une somme modique, généralement c'est pour 100 euros, de vous faire le séquençage génomique. Alors moi je ne l'ai pas fait. J'ai expérimenté d'autres choses, mais je n'ai pas expérimenté ça parce que bon, ça me semblait un peu délicat. Mais il y a des journalistes qui l'ont fait et j'ai lu leur témoignage. Alors voilà, donc vous allez sur le site, notamment le plus connu c'est 23andMe. Ça veut dire 23 et moi. C'est le nombre de chromosomes dans le corps humain. Et c'est un site, c'est une filiale en fait de Google. Et là on rentre déjà dans les GAFA. C'est Google qui aujourd'hui, par l'intermédiaire de ce site qui est le plus important, a stocké déjà au moins 1 million de génomes pour ses recherches là-bas en Californie. Alors en quoi ça consiste ?
Qu'est-ce que c'est séquençage ?
Séquençage ? Les séquences, moi je ne suis pas scientifique, hein, je suis comme vous. Hein. Chaque fois je suis allé faire des recherches, j'ai essayé de comprendre. Donc ce sont quatre protéines de base qui se couplent. Et donc c'est le séquençage, c'est les séquences de ces couples de protéines, c'est les acides, des oxyribonucléiques, si vous voulez, peut-être potentiel plus que moi.
En fait, le séquençage du génome, ça consiste à faire sa lecture et savoir ce qu'il y a dedans.
C'est l'identification des gènes. Et après la lecture, il y a l'interprétation des gènes. Le séquençage, c'est l'identification des gènes. Et après, il faut l'interpréter. Donc voilà. Et alors, je parlais donc de cette filiale de Google qui s'appelle 23andMe et qui propose donc de faire votre séquençage pour 99 euros. Alors vous payez sur Internet, vous payez 99 euros. Quelques jours après, par la poste, vous recevez un kit avec des tubes dans lequel vous allez mettre de la salive. Vous le renvoyez à une filiale qui est en Europe et ils vont faire votre séquençage. Deux, trois semaines après, dans votre boîte mail, vous allez recevoir le résultat du séquençage. Alors, tout est groupé, parce qu'il y a trois motivations généralement. Soit la recherche de paternité, il y a des gens qui passent par là pour savoir s'ils sont bien les parents de père de leur enfant. Les recherches généalogiques, et surtout les recherches aussi de maladies potentielles. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez tout de suite accès aux résultats généalogiques. C'est comme ça qu'on a réussi à savoir que l'ensemble, enfin la population européenne, a au moins 3% de ses gènes liés à Néandertal, et que donc Homo sapiens et Néandertal se sont accouplés à une époque. Bon, ça voilà. On peut aussi découvrir qu'on a des gènes africains, et ça c'est très bien pour combattre le racisme. Il y a quand même des choses qui peuvent être positives. Après la paternité, c'est autre chose. Et c'est normalement interprété par... il faut faire une comparaison des gènes de l'enfant avec celui du père. Mais il y a un troisième département dans ce que vous recevez, c'est tout ce qui est lié aux maladies. Aujourd'hui, il y a 300 maladies. Il y a 300 maladies dont les gènes ont été identifiés. Donc là, il faut que vous cochiez une case en disant que c'est vous qui engagez votre responsabilité pour lire le résultat de ces recherches. Et là, vous avez accès, vous êtes tout seul, il n'y a personne qui peut, il n'y a pas un généticien pour vous aider à interpréter ce qui se passe, et vous avez accès aux résultats touchant ces 300 maladies. Donc, et chaque fois, on vous dit c'est gènes de susceptibilité, mais là, en l'occurrence, c'est même plus gènes de susceptibilité, c'est presque de la certitude. Et voilà, donc, comme de toute façon, on est seul face à ça, c'est un peu aujourd'hui ce qui se passe. Par le biais de ces recherches. Surtout, ce qui permet à des sociétés comme 23andMe, c'est de stocker des génomes et de les stocker dans leur banque de données. Et on va voir qu'aujourd'hui, ces banques de données, toutes ces informations sont, le nerf de la guerre de tout ce qui se passe au niveau numérique et intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si je suis clair ou si vous avez peut-être des questions, besoin de précision. Moi, je... Voilà, après, peut-être que vous en savez plus que moi sur les histoires de gènes.
Les assurances ne risquent pas d'utiliser ces données pour les primes.
Tout à fait. Il y a des assurances qui investissent là-dedans, d'ailleurs. Et qui, voilà, parce qu'effectivement, si vous êtes susceptible de développer une maladie d'Alzheimer et que votre assurance est au courant, c'est sûr qu'elle vous fera payer des primes, vous fera payer des tarifs supplémentaires. Donc il y a ce risque-là, il y a... Aussi au niveau du contrôle des populations, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et qui sont comme je vous le disais, et on va le voir au niveau de tous les niveaux, au niveau de l'intelligence artificielle. En France, il y a une législation qui encadre le séquençage génomique, mais aujourd'hui, par Internet, ça échappe à toute réglementation. Et on va voir que, voilà, et on ne sait pas le contrôle des données. Toutes ces données sur les génomes qui sont stockées, qui les contrôle, on n'en sait rien. Voilà.
Est-ce que le matériel qu'on envoie, est-ce qu'il est utilisable par les labos pour recréer quelque chose ?
Alors pour recréer quelque chose, je ne pense pas. C'est surtout utilisable par les labos, vous allez voir, pour tout ce qui est recherche, parce qu'ils ont besoin de stocker de plus en plus pour faire des recherches au niveau des gènes, notamment.
Ils n'ont pas congelé la matière.
La matière, non, il n'y a pas de matière, c'est de l'information. Là, on n'est plus
Quand on envoie de la salive, je veux dire.
Ah, la salive,
on
non.
On envoie de la salive.
La salive, elle ne sert qu'à extirper des informations.
On est sûr de ça.
Ce sont des données, et après, on les transforme en algorithmes pour pouvoir les interpréter. Mais l'humain se transforme en données par ce biais-là.
En fait, ce n'est pas de la salive qui les intéresse, quand ils nous disent de saliver ou de mettre sur un coton. C'est en fait des cellules de la bouche. Et dans les cellules de la bouche, vous avez effectivement toute votre ADN, dans toutes les cellules, elle est là. Et donc, c'est tellement facile de récupérer des cellules parce que la bouche desquame très facilement. Et donc, du coup, la peau intérieure est facilement retrouvable sur un coton-tige. Et c'est la salive n'est pas véhicule, c'est pas
oui,
dans la salive.
Ça peut être le sang.
Ça peut être
aujourd'hui,
le sang,
on fait des recherches
des globules,
sur les diagnostics prénatal. Avant, il fallait faire une amniocentèse. Oui. Aujourd'hui, on fait la recherche directe sur le sang de l'enfant qui est présent dans le sang de la mère. Et donc, on va faire... soit un séquençage, on ne fait pas un séquençage complet, on fait un séquençage des gènes de maladies identifiables. Donc on peut faire, connaître l'ADN de l'enfant à travers le sang de la mère. Donc la salive, voilà aussi, c'est qu'un support. Ce qui compte après, ce sont ces informations qui sont transformées en données. Donc tout à l'heure, à un moment donné, on avait la médecine par rapport à la maladie d'Alzheimer qui ne fonctionnait qu'avec des neurones, on n'est que des neurones, on n'est que de la biologie. Donc tout le cadre, on n'a pas eu le temps de trop développer autour de la maladie d'Alzheimer, mais tout le cadre sociétal, familial, environnemental est complètement zappé. On ne recherche que des médicaments, donc c'est une réduction de la médecine, de la santé uniquement à la biologie. Après on est passé aux gènes, où on réduit la médecine et la santé qu'à des gènes. Et aujourd'hui, on va voir qu'avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, la santé n'est réduite qu'à des données. Et la guerre des données est aujourd'hui le principal enjeu au niveau de tout ce qui se passe au niveau économique. Donc, voilà. Donc, ce séquençage génomique donc, a été généralisé. Et seulement, ça demande énormément de capacité de stockage. Et on va voir que jusqu'à présent, tout à l'heure je vous parlais des laboratoires pharmaceutiques, ce qu'on appelle le Big Pharma, et aujourd'hui justement, parce qu'il y a ces données, puisque la santé se réduit aujourd'hui aux données, on voit arriver de plus en plus, tout à l'heure je vous parlais de 23andMe et de Google, on voit arriver dans la santé, et c'est eux qui prennent le pouvoir aujourd'hui de plus en plus dans la santé, ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple. On peut rajouter Tesla, PayPal, IBM aussi, qui est très présent. Donc eux, sont aujourd'hui en train d'occuper tout ce qui est gestion des données médicales. Ils constituent des banques énormes de données. Alors, ce n'est pas été les précurseurs. Il y avait, en 2000, il y avait déjà un laboratoire qui appartenait pas au GAFA, mais qui avait passé un contrat avec l'Islande. L'Islande était endettée. Donc ce labo proposait au gouvernement islandais de séquencer l'ensemble de la population, de faire un séquençage génomique de l'ensemble de la population irlandaise à la fin des années 2000. Donc il y a eu un accord qui était passé et il y avait 300 000 personnes qui devaient avoir leur génome séquencé. Donc c'était pour constituer une banque de données, une banque de biologique, génétique, et il y avait déjà des contrats passés avec d'autres labos pour faire des recherches au niveau des gènes, essayer d'identifier des gènes. Sauf qu'au dernier moment, le Parlement islandais a mis son veto et l'affaire ne s'est pas faite. Sauf que ce genre d'action se sont passées en Angleterre, sont passées aujourd'hui à le laboratoire de Lausanne, le grand hôpital de Lausanne qui a décidé de séquencer le génome de tous ses patients. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe un peu partout sur la planète. Et en France, les hôpitaux de Paris ont aussi créé des plateformes de séquençage et ils vont proposer à tous leurs patients le séquençage de leur génome. Donc ça, c'est aujourd'hui un des enjeux fondamentaux de la médecine. Et les GAFA arrivent derrière, ont créé eux-mêmes leur propre société de séquençage où ils vont stocker les données et les interpréter. Puisque pour les interpréter, il faut être maître de tout ce qui est algorithme. Et ce sont aujourd'hui les GAFA, toutes les sociétés d'Internet de la Silicon Valley, qui gèrent les algorithmes. Les algorithmes, alors là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer ce que c'est que les algorithmes. C'est essayer de... C'est réduire les données à un certain nombre d'opérations de base qui permettent après de comprendre et d'analyser le... Il n'y a pas de professeur de maths. Non.
Ah, des algorithmes qu'on a enfin en maternelle quand on peut les connaître.
Voilà.
Bleu, rouge, jaune, c'est un algorithme.
Donc ça veut dire que la santé aujourd'hui est réduite à des données. Les données, c'est 1-0, c'est le langage numérique.
L'algorithme, ça va un petit peu plus loin. C'est aussi c'est une mise en équation de toutes ces données sur un individu ou sur un fonctionnement. Par exemple, à l'heure actuelle, l'enjeu des compteurs Linky, c'est effectivement bien de récupérer des données de fonctionnement personnel. Puisqu'on saura ce que vous faites dans votre maison, et ensuite, avec des algorithmes, de se dire, mais puisqu'il a fait ça à ce moment-là, c'est que peut-être... Donc tout ça, c'est une mise en équation de ces données-là qui va faire qu'à un moment donné ou un autre, on saura quelle est un peu votre idée. Alors le but, c'est bien entendu, avec la puissance de calcul, d'arriver à aller un peu plus loin qu'un peu. Donc plus on aura des calculateurs puissants, et plus on pourra avoir des algorithmes compliqués, et donc ces algorithmes compliqués, essayez de reproduire un petit peu votre réflexion. Alors, quand je dis un petit peu, c'est un petit peu au départ, c'est un petit peu plus, et ainsi de suite. Voilà. C'est ça l'algorithme. L'algorithme, c'est une opération mathématique qui est un modèle. Alors, pour l'homme, modéliser un homme, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est caricatural. Mais dans la progression, avec les volumes de données et avec les capacités de calcul qu'il va y avoir, ça va faire qu'effectivement on aura une idée de ce que vous êtes. Voilà.
Alors c'est vrai que parallèlement, par exemple, à tous les progrès qui ont été faits au niveau du séquençage génomique, on assiste à ce qu'on appelle, une progression exponentielle de toutes les recherches et au niveau ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, biotechnologies et tout ce qui est informatique. Il y a quelqu'un qui a théorisé ça, il appelle ça la loi de Moore, qui dit que tous les 2 ans, je crois, la capacité des supercalculateurs est multipliée par je ne sais plus combien et que ça croît de façon exponentielle. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est ordinateur, les ordinateurs les plus puissants sont capables de produire, je crois, 1 million de milliards d'opérations à la seconde. Et en 2020 ou en 2022, je ne sais plus, ça sera 1 milliard de milliards d'opérations à la seconde. Donc ce sont c'est ce qui explique aussi que l'intelligence artificielle va aujourd'hui se développer et que tout le monde investit là-dedans, parce qu'il y a des bons quantitatifs et qualitatifs qui sont en permanence produits au niveau des sciences. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, introduction des GAFA au niveau de la gestion des données médicales. Il y a par exemple Google qui a racheté une société américaine, anglaise pardon, qui s'appelle DeepMind. Et DeepMind avait été impliqué dans un scandale parce que DeepMind avait réussi à récupérer je ne sais plus combien de centaines de milliers de dossiers médicaux d'individus sans l'accord de ces individus. Et DeepMind aujourd'hui a été racheté par Google et très connu parce que DeepMind a créé un programme d'intelligence artificielle qui s'appelle AlphaGo. et AlphaGo donc appartient à Google, et AlphaGo a battu il y a 2 ans, je crois, le champion du monde de jeux de Go, ce qui a fait connaître AlphaGo. IBM a aussi un programme d'intelligence artificielle dont on va parler dans peu de temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que Google, IBM, Facebook, Amazon rachètent ou créent tout un tas de tout un tas de sociétés qui étaient spécialisées dans la collecte des données et dans leur gestion. IBM, par exemple, ce sont eux qui sont à la pointe aujourd'hui. Ils ont créé un département spécial pour la santé qui s'appelle Watson Health. Et Watson Health avait 4 milliards de dollars, a réussi à racheter des dizaines et des dizaines de sociétés aux États-Unis et sur l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, IBM gère les données médicales, les génomes et toutes les informations médicales personnelles de 300 millions de personnes, ce qui est quand même énorme. Plus des accords qu'ils ont passés notamment avec Apple pour gérer toutes les informations médicales issues de leur programme, de tout ce qui... Parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de la e-santé, toute la santé connectée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce robot. Mais de plus en plus, la médecine repose sur la télémédecine, tous les objets connectés à domicile, notamment des piluliers connectés, des caméras connectées, mais aussi des smartphones connectés qui ont de plus en plus d'applications médicales pour surveiller votre tension, votre battement cardiaque, votre taux aussi, ce qu'il y a dans le sang, taux de glycémie. Et tout ça, ce sont des informations que vous collectez sur vos téléphones portables et qui sont après analysées, et notamment à IBM a passé un accord avec Apple pour gérer les informations de ces applications médicales qui sont au nombre de, je crois, une dizaine. Donc, et des accords avec des universités, avec des hôpitaux. C'est un empire médical qui est en train de se développer du côté d'IBM. Google fait la même chose. Il multiplie le nombre de laboratoires, les expériences tous azimuts. On va parler tout à l'heure aussi d'une filiale de Google qui s'appelle Calico, dont le but est de tuer la mort, donc qui travaille sur l'immortalité. Et voilà. Et donc IBM, puisque je parlais d'IBM, a un programme d'intelligence artificielle qui s'appelle Watson. Et Watson est aujourd'hui présent déjà, puisqu'on n'a pas attendu Villani pour cela. Watson est déjà présent dans les hôpitaux en France. Donc la question de l'intelligence artificielle, c'est même plus un débat, puisque ça a été pris sans qu'il n'y ait aucune consultation. L'intelligence artificielle est déjà présente dans les hôpitaux. Alors ce qui se passe avec ce programme d'intelligence artificielle, c'est que le médecin, vous allez voir un médecin pour une recherche sur un cancer ou quelque chose comme ça, un médecin spécialisé, il va vous faire tout un tas d'analyses, et notamment votre séquençage génomique. Ce séquençage, tous ces résultats, il va les intégrer dans son ordinateur et il va le donner à... C'est Watson qui va se charger d'analyser, de faire une recherche de diagnostic en prenant votre génome et en le comparant, par exemple, aux 300 millions de génomes qu'il a en stock, ou avec toutes les recherches médicales et tout ce qui se passe au niveau universitaire. Et très vite, en quelques heures, Watson va pouvoir sortir un diagnostic par rapport à un cancer ou par rapport à une maladie et proposer au médecin un diagnostic. Et dans le même temps, il fera une proposition de traitement. Donc pour le moment, on en est juste au stade du conseil de la proposition, mais le médecin est toujours présent, il est toujours là. Il est là pour interpréter et éventuellement proposer. Mais dans très peu de temps, rien ne dit que l'intelligence artificielle, on va assister à un glissement, et c'est l'intelligence artificielle qui prendra la décision, et il n'y aura plus de médecin. Puisqu'on parle déjà de médecins spécialisés dans l'intelligence artificielle, c'est dans le projet de Villani, mais il n'y aura peut-être même plus de médecins, ce sont juste des ingénieurs spécialisés en informatique médicale. Donc ça, c'est un glissement qui est déjà en cours et qui est tout à fait possible.
Les politiques, comment ils gèrent ça? Parce qu'on a l'impression qu'ils l'ont déjà mis en route. Il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins de spécialistes, comme s'ils attendaient ces intelligences artificielles. Alors est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est du hasard?
Quand vous dites qu'il y a moins en moins de médecins, c'est par rapport aux déserts médicaux, par exemple, et tous les problèmes qu'il y a dans les urgences?
Alors, spécialistes, tout ça,
on peut penser que c'est vrai. Comment ça se fait que la France, cinquième pays le plus riche de la planète, se retrouve à ce stade-là au niveau médical?
Et sur quelles données ils se basent pour...
Mais parce que derrière, il y a un programme. Alors, soit les médecins, ils recherchent, ce qu'on dit souvent, c'est que les médecins, ils ne veulent plus aller dans les campagnes parce qu'ils n'ont pas tout l'accès à la culture dont ils pourraient jouir. Mais je pense que derrière, il y a un programme. Et il y a un programme avec des financements qui s'appelle la télémédecine. En Aquitaine, l'Aquitaine est une zone expérimentale de la télémédecine. En quoi consiste la télémédecine ? Parce que je vous en parlais tout à l'heure. Donc on va de moins en moins hospitaliser les gens, ça va de pair avec tout ce qui est ambulatoire, et les personnes sont, soit elles rentrent à l'hôpital et ressortent le jour même ou le lendemain, soit elles ne rentrent pas du tout à l'hôpital et restent chez elles. Donc la télémédecine, ça consiste en télésurveillance, téléconsultation, télédiagnostic. Et ce sont des salles avec des écrans, où il y a par exemple une infirmière qui est en surveillance. Et la personne est chez elle, on va lui donner soit un bracelet connecté ou une tablette connectée. Et il y a tout un tas d'objets. Alors il peut y avoir il y a des piluliers connectés qui existent aujourd'hui, pour savoir si la personne prend bien ses médicaments. Et il y a tout un tas, il y a des habits connectés, il y a tout un tas de choses connectées,
des petits robots.
Et tout ça va de pair pour permettre une autosurveillance ou une surveillance à distance de ces personnes. Alors évidemment, tout ça va de pair aussi avec la e-santé, c'est-à-dire tout ce qui est santé à base des téléphones portables. Avec un iPhone, vous pouvez mesurer votre battement cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang, tout ce qui est surveiller votre sommeil, la tension. Et aujourd'hui, par exemple, Apple aussi a mis une lentille au point qui permettra d'analyser en permanence le taux de glycémie dans les larmes, pour savoir, pour destiner aux diabétiques. Donc ça va se multiplier, ça va être des centaines et des milliers d'objets connectés médicaux comme ça qui vont se généraliser. Se pose la question de la gestion et du contrôle des données, qui est pour le moment, on va y revenir si on a le temps, avec le programme d'intelligence artificielle, puisque Villani dit qu'il faut libérer tout ça. Donc la gestion, à qui va appartenir toutes ces données ? Et de plus en plus, avec cette télémédecine, on va être confronté à ça. Il y a ça, puis là, il y a aussi la déshumanisation de la médecine. Parce que vous n'avez plus affaire à un humain, on ne va plus prendre en considération votre vie, par exemple, si vous avez votre vie familiale, votre environnement, il n'est plus question de psychologie ou de quoi que ce soit. C'est purement une gestion médicale basée sur des données et sans aucune présence humaine. Donc, moi, je pense qu'en partie, cette désertification médicale est liée à cette politique de télémédecine qui est aujourd'hui généralisée. Dans le pire des cas, si on fait des projections, puisque notre société va dans ce sens, un jour, on aura des plateformes de télémédecine délocalisées en Roumanie, par exemple, où il y aura des médecins, des infirmières ou en Inde sous-payés et qui seront chargés à distance de surveiller la santé des personnes des pays les plus riches.
On peut prévoir la même chose pour l'éducation, par exemple.
La même chose. Ça, c'est... Voilà. Donc, tout ça est... Alors, on n'a pas encore parlé de transhumanisme, mais on voit qu'il se met en place petit à petit une société qui échappe un peu au contrôle des citoyens, avec une science qui va de plus en plus vite, qui devient de plus en plus folle. Alors, il faut quand même que je vous parle de tout ce qui se passe, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du génome. Alors, il se passe beaucoup de choses au sein du génome, puisque le rêve d'un homme augmenté passe par la manipulation du génome. Alors, il y a eu une nouvelle découverte scientifique miraculeuse il y a quelques années, il y a 5 ans, je crois. Ça s'appelle CRISPR-Cas9. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, c'est une chercheuse française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier qui l'a mise au point avec une chercheuse américaine. C'est un ciseau génétique. Ça s'appelle comme ça. En fait, c'est une bactérie, il me semble, qu'on peut contrôler et qui peut intervenir au sein du génome.
C'est un virus.
Et qui sous contrôle, peut permettre... Alors, on parle d'édition génomique, c'est-à-dire on peut copier, coller, intervenir au sein du génome, enlever des gènes, en rajouter, et intervenir comme on veut pour modifier le génome. Ça a une particularité aussi, CRISPR-Cas9, c'est que c'est très facilement reproductible. Donc n'importe quel petit laboratoire pharmaceutique de n'importe quel pays peut se servir de CRISPR-Cas9 et faire les essais, mener les expériences qu'il veut. Je crois que CRISPR-Cas9 a été officiellement, comment dire, la découverte a été officialisée en 2013-2014. Dès 2015, il a commencé à y avoir en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud, je crois, et dans d'autres pays, des expériences qui ont été menées sur les génomes des animaux, sur des rats. On est intervenu sur des rats, sur leur génome, et on a fait se reproduire ces rats. Ils sont reproduits sans problème. On a aussi fait une expérience sur des cochons, avec des génomes de cochons et des génomes humains, pour essayer de faire des animaux dont les organes pourraient être greffables sur l'être humain. Ça n'est resté à l'état d'expérience. Mais très très vite, on est passé très vite à des expériences sur l'embryon humain. Et aujourd'hui, on en est là. En Chine, aux États-Unis, en Europe, il y a de plus en plus d'expériences qui sont menées sur les embryons humains pour essayer d'intervenir au sein du génome. Alors, comment ça se passe vis-à-vis des embryons humains? Et là, on est en plein dans Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Gattaca, c'est la création du bébé parfait, d'un être humain parfait, dans lequel on aura sélectionné au sein du génome les gènes où on sera intervenu pour mettre des gènes permettant d'obtenir un individu parfait. Alors, les interventions au sein du génome se passent dans ce qu'on appelle les fécondations in vitro. Fécondation in vitro, c'est on fait se rencontrer artificiellement un spermatozoïde, un ovule en dehors du corps humain. On obtient tout un tas d'embryons et c'est l'embryon le plus qui a le plus de chances de vivre qui est réimplanté après dans le corps de la femme. Donc, ces dizaines d'embryons qui restent, et c'est sur ces embryons que les expériences sont désormais menées. Alors, on intervient...
Autorisation ou sans autorisation des porteurs?
Alors, comment sont créés les embryons? Je n'en sais rien, je pense qu'il n'y a pas d'autorisation. En Chine, c'est pratiquement sûr qu'il n'y a pas d'autorisation. Aux États-Unis, je ne sais pas. En Europe, alors justement, tout ce qui se passe aujourd'hui, et Villani est au... Cédric Villani est au cœur de... Enfin, tout le débat qui est autour de l'intelligence artificielle est au cœur de tout ça. C'est-à-dire qu'en Europe, et on va tout à l'heure parler, j'espère qu'on aura le temps d'aborder ça, d'un personnage qui s'appelle Laurent Alexandre, qui est un transhumaniste convaincu, mais qui ne se présente pas vraiment comme ça dans les médias en France, mais qui, lui, fait pression, c'est un ami de Macron, c'est un ami de tout un tas de personnes, on va voir que c'est une personne très influente, il n'est plus seul. Donc lui, il faut en finir avec tout ce qui est régulation, avec tout le principe de précaution, avec le Conseil national d'éthique, il faut s'en débarrasser, parce que ça nous fait prendre énormément de retard dans la guerre économique qui est en train de se mener. Et que si on ne fait rien, la Chine, les États-Unis vont être les premiers, et que la France sera réduite au rang d'un pays africain en 2040. Donc, par rapport aux interventions sur les embryons, en Europe, il y a une convention qui s'appelle la Convention d'Oviedo qui encadre tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu très peu d'expériences menées encore aujourd'hui sur les embryons. Mais dans très peu de temps, cette Convention d'Oviedo, c'est sûr qu'elle sera mise de côté et que les expériences vont se multiplier. Parce que Laurent Alexandre parle de biotransgression, qu'il faut multiplier les biotransgressions. Il ne faut pas avoir peur des biotransgressions. Donc on en est là. Alors, ces expériences sur les embryons, faut voir, et les transhumanistes... On va voir comment ils interviennent, se cachent toujours derrière les découvertes de la science, qui peuvent être totalement bénéfiques. Il ne faut pas cracher sur la science. Il y a aujourd'hui, au niveau de la recherche, des choses extraordinaires qui se passent. On n'a pas eu le temps de parler des nanotechnologies, tout ce qui est implant. Mais par exemple, un paraplégique, aujourd'hui, peut réapprendre à marcher. Parce qu'on va mettre un implant dans son cerveau, on va mettre des capteurs et recréer un courant neuronal.
Une
chaîne nerveuse artificielle qui lui permettra de bouger ses jambes. C'est toujours au niveau expérimental. Au niveau des aveugles, c'est pareil. Il y a tout un tas d'expériences qui sont menées pour essayer de redonner la vue aux aveugles. On pourrait parler des prothèses bioniques. Quelqu'un qui a perdu son bras, on peut lui mettre aujourd'hui une prothèse qui sera plus performante que son bras d'origine. Alors ça, c'est totalement positif. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce que ça permet, effectivement, on était tout à l'heure, je vous parlais du soin, on était dans la prévention, là on est dans la réparation, et on glisse vers l'amélioration. Et on peut après arriver à l'augmentation et créer, fantasmer sur des êtres humains supérieurs, augmentés. Au niveau des génomes, la plupart des, officiellement, des expériences qui sont menées, ce sens pour, c'est pour éradiquer des maladies orphelines. Je crois que c'est aux États-Unis, ils ont essayé d'éradiquer le VIH sur des embryons. On ne sait pas trop. Voilà. Il y en a d'autres qui sont menées sur les Chinois travaillent pour essayer d'identifier le gène de l'intelligence. Donc ils mènent des expériences sur les embryons pour essayer de développer le gène de l'intelligence. Les Chinois aussi, ils ont besoin de guerriers. Et on va voir qu'ils sont très en avance, les Chinois. Par exemple, ils ont multiplié l'identification faciale avec des caméras ou des capteurs. Vous allez avoir tout votre CV qui va apparaître à travers votre visage, puisqu'il y a des programmes informatiques d'intelligence artificielle qui vont pouvoir lire votre visage, vous identifier, et qui aura en stock toutes les données sur votre personne. Donc les Chinois travaillent aussi sur des super guerriers qui auraient la possibilité de voir la nuit. Donc ils ont identifié le gène de la vision de nuit chez des chauves-souris, je pense, et ils sont en train d'essayer de les greffer sur des génomes humains. Des expériences comme ça, il y en a en pagaille. Donc elles sont hors contrôle, on ne sait pas trop ce qui se passe. Normalement, les embryons sont détruits. Ils ne sont pas réimplantés dans le ventre d'une femme. Et donc, pour le moment, ça n'aurait pas donné naissance à des générations d'humains. Sauf qu'il y a beaucoup de chercheurs, il y a Jean-Claude Amezen qui a fait pas mal d'émissions là-dessus, qui se posent des questions sur les conséquences. Par exemple, il y a un centre de recherche anglais qui est intervenu sur les génomes des moustiques pour stériliser les moustiques. La conséquence, ça serait la disparition du paludisme. Donc c'est tout à fait bénéfique, sauf qu'il y a 120 ONG qui ont créé une espèce de collectif et qui demandent un moratoire. Ce qu'ils disent, on va supprimer les moustiques, mais ça va créer un vide dans la nature. Qu'est-ce qui va se passer? Donc à ce niveau-là, apparemment, pour le moment, le moratoire sera adopté et on essaie de voir un peu les conséquences de ça. Mais pareil, sur l'intervention au sein d'un génome, si on enlève le génome, ou si on met le génome, si on arrive à l'identifier, hein, je ne sais pas s'il existe le génome de l'intelligence, mais quelles conséquences il va y avoir si on supprime le génome d'un cancer, le gène d'un cancer au sein d'un génome, quelles conséquences sera pour les générations futures? Est-ce que ça ne va pas créer des perturbations? Est-ce qu'on ne va pas agir sur d'autres gènes de façon secondaire? Voilà. Et tout ça, pour le moment, il y a des interrogations éthiques, mais les expériences continuent à se multiplier. Donc là, je vous parlais de tout ce qui est possible au sein du génome, sur l'embryon, et effectivement, ça ouvre grande la porte de tout le fantasme du bébé génétiquement modifié, parfait, et qui serait... C'est un des fantasmes de ce qu'on va aborder tout à l'heure, des transhumanistes. Les autres recherches...
Oui. Bienvenue à Gattaca, c'est ça?
Oui.
Sauf qu'on se souvient comment ça se termine quand même.
Bienvenue à Gattaca?
Oui.
Alors, ça se fait, on ne sait pas comment ça finit.
On constate quand même que celui qui n'a pas été sélectionné,
oui, est meilleur.
Aussi bien que les autres.
Oui, oui. Mais il nage plus vite.
Hein?
Il nage plus vite
et puis aussi il réussit à.
Ensuite
partir.
Oui. Bon, ça, c'est le côté positif de la science-fiction. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas où on en est à ce niveau-là. On n'en est pas encore là, vraiment, tout à fait. Pour parler aussi des progrès de la science, et pour en venir petit à petit au délire transhumaniste, il y a énormément de choses qui se passent aussi au niveau de la recherche sur le vieillissement. Il y a tout un tas de prix Nobel qui ont été attribués ces 10 dernières années à des chercheurs qui ont mené des recherches pour essayer d'identifier les causes du vieillissement ou pour essayer de ralentir le vieillissement. Bon, je vais passer très vite là-dessus. Il y a tout ce qui touche le télomère. Télomère, c'est l'extrémité des chromosomes qui serait liée au vieillissement. Qui chaque fois qu'une cellule se divise, le télomère se réduit. Et donc, on essaie de faire en sorte qu'il ne se réduise plus pour faire des cellules immortelles. Ce sont des expériences qui sont menées. Et je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a eu le prix Nobel. Il y a un Japonais, j'ai oublié son nom, Yamanaka, je crois, qui a eu le prix Nobel par rapport à ses études des cellules souches. Et ça, c'est extraordinaire. Ça ouvre aussi des portes. Et on va voir que des portes au niveau scientifique, il y en a plein qui s'ouvrent. Là, je vous en parle quelques-unes, mais si vous faites des recherches, vous commencez à vous intéresser à ça, vous allez voir que ça va dans tous les sens. Les cellules souches, en fait, c'est des cellules, lui, il les appelle pluripotentes. Il a réussi à déprogrammer, c'est-à-dire que... il est parti de cellules humaines qu'il a déprogrammées pour les faire revenir à leur état embryonnaire. C'est-à-dire des cellules qui sont dans l'embryon, soit dans le cordon ombilical, et qui ne sont pas encore programmées. C'est-à-dire ces cellules, après, avec les informations de l'ADN, vont être transformées en organes, en cerveau, en ongles, en pieds, vont être programmées pour faire un être humain. Donc lui, il a réussi à revenir à des cellules souches qu'on peut reprogrammer comme l'on veut. Soit pour faire des organes, et là, c'est là que la porte vers, pas l'immortalité, mais un ralentissement du vieillissement est ouverte, on pourra faire des cœurs artificiels à partir de ces cellules souches artificielles. Refaire un cœur, refaire un foie, refaire des organes à partir de ces cellules souches et les réimplanter dans un être humain. Je vous conseille d'ailleurs la lecture d'un excellent livre qui est un livre de fiction. C'est un écrivain contemporain qui s'appelle Pierre Ducrozet. Et le livre s'appelle « L'invention des corps ». Et il parle de tout ça. Dans son livre, c'est un livre qui vient de sortir, qui vient d'avoir le prix Flore cette année. Donc, c'est juste tout un tas de perspectives sont ouvertes aujourd'hui par rapport à la lutte contre le vieillissement. Il y a certaines recherches qui sont menées aussi sur des vers, pour essayer de comprendre, sur Libre, essayer de comprendre pourquoi ils vivent beaucoup plus vieux, ils se renouvellent, ils se régénèrent, et en les étudiant, on peut essayer, certains espèrent trouver la recette de l'immortalité. Donc tout ça, je vais arrêter de vous faire l'énumération de tout ce qui est aujourd'hui possible et qui est déjà présent dans notre société. Et on va voir que, effectivement, le délire du transhumanisme ne repose pas sur du vide, ce n'est pas que du fantasme. Ça repose sur une science qui, d'un certain côté, s'affole, devient une nouvelle, et qu'il ne faut pas grand-chose pour que cette science devienne une nouvelle religion, et c'est ce qu'elle est en train de devenir. Et ce que tu disais par rapport au livre de Noah Harari, c'est que lui, il explique ça, et que l'homme va devenir un nouveau dieu. Mais peut-être que, moi je parle beaucoup, vous avez peut-être des questions.
Juste, c'était pour dire qu'on peut peut-être faire une petite pause là, de 10 minutes, un quart d'heure, qui va permettre effectivement de causer entre nous, de voir aussi la bibliographie, et ça permettra ensuite de remettre en route un débat, c'est-à-dire les questions posées. Je ne sais pas si c'était comme ça qu'on procédait d'habitude, mais c'est vrai que c'est important peut-être aussi un peu de calmer le flot de connaissances et ensuite de reprendre sur une discussion. Et toi, nous apporter d'autres lumières sur, entre autres, le transhumanisme, après ce que tu nous as dit, sur l'état actuel de la science.
Alors, moi, dans mon bouquin, j'explique. Oui. Il y a beaucoup d'informations dont je vous parle qui ne sont pas dans mon bouquin. C'est vrai que moi, à force de faire des débats, j'ai appris beaucoup de choses. Mais pour moi, ça me semblait très important de parler de tout ça avant de parler du transhumanisme. Parce qu'on peut voir que, en fait, le transhumanisme, c'est presque secondaire. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle, tout ça, mais à la limite, que ce délire des gens qui sont les plus puissants de la planète aujourd'hui, qui sont à la tête des géants du web, par exemple Elon Musk a envoyé une fusée, il est à la tête de Tesla, et il est à la tête d'une société qui s'appelle X-Space. Il avait créé ça pour envoyer des milliardaires faire du tourisme dans le cosmos. Et ce monsieur, et non, Tesla, c'est pour créer des véhicules complètement autonomes. Et ce monsieur, il a un délire. Alors lui, il fantasme beaucoup sur l'intelligence artificielle, mais il a très peur. Il développe, il a créé une société qui s'appelle Neuralink, qui travaille sur l'interface entre intelligence artificielle et intelligence biologique. Il rêve de fusionner les deux. Mais en même temps, ça lui fait très peur. Et il a tellement peur de ça que son programme, il a un programme, c'est coloniser Mars. Alors on se dit, ce type, il est complètement fou. On dirait un adolescent qui n'a pas fini son adolescence. Sauf qu'il est à la tête, il faut savoir que on va faire la pause après, hein, c'est tout. Mais c'est que ces sociétés, la France, le produit intérieur brut de la France, c'est 2500 milliards de francs. Google Apple, Amazon, ce sont chacune de ces sociétés 1000 milliards de dollars de capitalisation. Donc ils ont une puissance comparable à celle d'un État. Et ce sont des gens qui sont à la tête d'empires phénoménaux, colossaux. Donc Elon Musk, il a eu le moyen de créer une société pour fabriquer des fusées. Et il a envoyé il y a un mois une fusée dans l'espace, une des fusées les plus puissantes, les plus au point dans toute l'histoire de l'aéronautique. C'était juste un essai fantasme. Il a balancé, c'était pour balancer le prototype de sa dernière voiture avec un mannequin à son effigie en se disant peut-être qu'il en balançait dans le cosmos, que les extraterrestres un jour la rencontreront et penseront à lui. C'est des gens qui fantasment sur le transhumanisme, qui fantasment à tous les niveaux, mais ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui sont dans notre quotidien déjà, et voilà.
Donc dans l'Arizona, un de ces Tesla a écrasé une...
Oui, il y a un premier accident.
Mortel.
Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on...
Ne devons pas arriver...
Mais ça n'empêchera pas les voitures autonomes de se généraliser.
Le problème avec la voiture en même temps,
c'est sûr que, en abordant ce sujet avec